Vous écoutez l'épisode 121 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour. Si vous êtes curieux de savoir comment automatiser vos tâches quotidiennes pour gagner en efficacité et en productivité et que vous possédez un Chromebook et que vous souhaitez maîtriser tous ces secrets, restez avec nous. Dans cet épisode, nous vous dévoilons tout ce que vous devez savoir sur l'automatisation en passant par Google Apps Script et Make d'Integromat. Mais ce n'est pas tout parce que nous allons vous livrer également des astuces pour optimiser l'utilisation de votre Chromebook. Bref, un épisode riche en conseils et en découvertes que vous ne voudrez surtout pas manquer. Alors, prêt à booster votre efficacité et votre productivité, bonsoir à tous. Je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné d'Olivier. Bonsoir Olivier, comment vas-tu ce soir ?
Et bonsoir tout le monde, moi ça va super bien, un petit peu fatigué parce que le week-end a été compliqué, mais sinon ça va.
Eh ben, c'est exactement la même chose pour moi.
C'est peut-être le changement d'heure que je supporte mal.
Avec l'âge apparemment, c'est de plus en plus compliqué selon un épisode de podcast que j'ai entendu dernièrement. Avant de passer à notre sujet, on va faire un petit tour de table. Bonsoir Pierre, bonsoir Olivier, je viens de te le dire, bonsoir Didier, bonsoir Alain, bonsoir Yagelt, oh ça fait un petit moment Yagelt, bonsoir Mister Robot, c'est le même personnage de toute façon. Bonsoir à tous, bienvenue à vous tous dans cet épisode. Alors vous le savez évidemment, le CKB Show et My Chromebook sont proposés totalement gratuitement. Cependant, si vous voulez soutenir notre aventure et qu'elle continue encore et que vous en retirez des informations au quotidien, qu'elles vous sont utiles en plus, alors pourquoi ne pas envisager de nous soutenir financièrement à hauteur d'un café par mois, même pas un café parisien, un café classique, par mois sur patreon.com/mychromebook. Ça nous aide énormément, ça nous fait plaisir et puis ça nous permet d'avancer aussi dans les usages informatiques en payant par exemple l'application qui nous permet d'être aujourd'hui en live. Évidemment, on ne va pas remercier tous ceux qui nous soutiennent déjà, mais le cœur y est. Bonsoir Dominique également. Mais en attendant que vous nous souteniez, on va attendre. Allez. Ça y est, vous nous avez soutenu ? Non ? Bon, alors c'est pas grave, on va quand même continuer. En attendant, on va passer immédiatement au sujet qui nous intéresse ce soir. On va commencer par l'automatisation. L'automatisation, Olivier, c'est toi qui voulais aborder le sujet. Tu es aujourd'hui à fond dans l'automatisation depuis quelques temps. Et avant de commencer, peut-être que tu pourrais nous dire ce qu'est l'automatisation et à quoi ça peut nous être utile au quotidien.
À fond dans l'automatisation. J'utilise des outils informatiques, donc j'ai toujours été un peu dans l'automatisation, parce que c'est quand même l'idée, c'est de faire par des robots, qu'ils soient informatiques ou autres, des tâches qu'on n'a pas envie de réaliser nous-mêmes de façon répétitive. Donc l'automatisation, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de créer des processus, ce qu'on appelle des workflows en bon français, avec différents systèmes qu'on destine finalement à intervenir sur des tâches qu'on aurait fait manuellement de façon répétitive, mais que dont l'outil va se charger finalement pour automatiser tout ça, quoi. Voilà. Donc là, on voulait vous parler de deux outils que j'utilise moi au quotidien, et donc c'est pour ça qu'on va en parler parce que je les connais un peu. Mais c'est essentiellement la première qui est une solution Google. On est dans le CKB Show, donc on va commencer par celle-là quand même. c'est Google App Script. Et puis la seconde, c'est une que j'ai découvert il y a assez peu de temps finalement. La solution Make de chez Integromat. Ouais.
Ouais.
Voilà les solutions dont on va parler.
Ouais. Ouais, deux solutions complètement différentes, mais qui peuvent se réunir, qui peuvent peut-être interagir entre elles. D'ailleurs, tu nous en diras un petit peu plus dans la suite de l'épisode. On va commencer évidemment par celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, mais les deux sont très très bien pour m'amuser également un petit peu. Alors, je suis pas à ton niveau encore, mais on va y venir. Google Apps Script. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on a besoin ? Moi, je vais te poser la première question parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Parce que généralement, quand je parle d'automatisation sur Google, on me met dans les dents un truc qui s'appelle Excel et le VBA, le Visual Basic. Est-ce que ça peut être l'équivalent ou pas du VBA ? Est-ce que c'est la même chose ou il y a des équivalents ou c'est différent ?
Bah, en fait, justement, si vous connaissez le VBA, avec notamment les applications qu'on connaît au quotidien, même au niveau professionnel, par exemple, donc le VBA Visual Basic pour application, qui est donc un langage de programmation qui a été inventé par Microsoft pour la suite Office. Bah, en fait, Google Apps Script, c'est un peu la même chose, si ce n'est que c'est un outil qui est dédié à la suite des outils Google. Donc, Google Sheets, Google Docs, Google Slides, etc., etc. Et d'ailleurs, moi, je m'y suis intéressé au départ parce que je cherchais justement un équivalent de VBA, de Visual Basic, pour les outils Google. Parce que quand je suis passé de PC Windows à Chromebook, bah forcément, il y avait des choses que je faisais avec Excel, notamment, et notamment avec Visual Basic, qui me posait question. Je me demandais si j'allais pouvoir faire la même chose avec les outils Google. Et c'est là que j'ai découvert Google Apps Script.
Et du coup, entre les deux, moi, de souvenir, hein, tu me dis si je me trompe, n'hésite pas. Moi, VBA, quand je m'en servais, je ne payais pas, hein, puisque je payais déjà ma suite Office, donc finalement, c'était inclus dedans. Est-ce que Google Apps Script, tu payes pour y accéder ou pareil, c'est inclus dans la suite Google Workspace ?
Non, c'est complètement inclus dans la suite Google. Il n'y a absolument rien à payer, c'est complètement gratuit. En fait, moi, au tout début, je voulais faire comme dans Excel, je voulais créer des boutons. Et que quand je clique sur le bouton, bah, il se passe des trucs. Je voulais faire des choses comme ça, créer des petits formulaires ou simplement faire afficher des fenêtres pop-up pour poser des questions à l'utilisateur de la feuille Excel. Et donc, toutes ces petites choses-là, j'ai voulu les retrouver dans Google Sheets. C'est vrai que je suis arrivé, moi, à Google Apps Script essentiellement via Google Sheets parce que c'était une transposition logique de VBA par rapport à l'utilisation que j'avais d'Excel, quoi. C'est un peu comme ça que j'ai découvert Google Apps Script et tout son univers. Mais finalement, je me suis rendu compte que Google Apps Script, c'est un langage de programmation qui est donc, comme on l'a dit, mis à disposition pour automatiser tous les produits Google. Mais justement, ça va beaucoup plus loin que VBA, à mon sens, parce que VBA, c'est limité au pack Office, c'est limité à la suite Office, alors que Google Apps Script couvre vraiment l'intégralité, enfin, énormément des outils de la firme Google. Alors, bien sûr, il y a Google Sheets, il y a Google Docs, mais on peut aussi directement interagir avec son Google Drive, interagir avec sa boîte mail, avec Gmail, Google Form, bien sûr, pour tout ce qui est formulaire, mais aussi, on peut avoir des actions automatisées dans Google Slide, sur Google Sheets, dans Google Chat, dans Google Keep, enfin bref, dans beaucoup, beaucoup d'outils de chez Google, quoi.
D'accord. Et du coup, donc, ce que je comprends, c'est finalement, Apps Script, c'est une application à proprement parler dans la suite Workspace que tu peux, qui va interagir avec tous les produits, pas comme VBA finalement, qui est uniquement utilisable sous Excel.
Non, VBA, je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisé ailleurs que dans Excel. Je ne sais pas si ça s'utilise ailleurs que dans Excel. Il faudrait demander aux spécialistes de chez Microsoft. Mais pour le coup, oui, effectivement, Google Apps Script, c'est en même temps une application en tant que telle. C'est-à-dire qu'il suffit de taper dans la barre dans l'Omnibox, hein, script.google.com, et on va arriver sur l'interface Google Apps Script, qui est ni plus ni moins la même que quand on tape docs.google.com ou sheets.google.com. On va retrouver tous les scripts qu'on a pu créer. Il y a deux types de scripts, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a les scripts dits embarqués et les scripts indépendants. Les scripts embarqués, c'est des scripts qu'on va directement lier à un fichier, par exemple un fichier Google Sheets ou un fichier Google Doc, avec des actions qui vont être spécifiques à ce fichier, qui peuvent aller chercher des informations dans les autres applications Google, mais qui vont être vraiment embarquées avec le fichier. Et les applications en standalone, on va dire, de Google Apps Script, où là, on va créer directement un Google Apps Script, un script, et là, on va pouvoir aller, pareil, chercher des infos ou créer des choses un peu partout dans les différentes applications de chez Google. Voilà.
D'accord. Donc, et donc c'est un langage de programmation. Est-ce que c'est compliqué de se jeter dans ce langage de programmation? Parce que on est nombreux à pas forcément savoir coder. Est-ce que je vais passer des heures? Il faut des bouquins entiers? Il faut des années entières?
Je vais pas dire que c'est simple, mais je vais pas dire que c'est compliqué non plus. Je vais pas forcément être le meilleur juge pour ça, parce que moi j'ai toujours adoré ça. Enfin, quand j'étais gamin, j'ai profité de l'informatique pour tous des années 80 avec les MO5 qu'on avait dans les collèges et dans les écoles. Et dès le départ, on nous avait appris à programmer en BASIC. Donc c'est toujours resté un petit peu en moi, et donc le fait de taper des lignes de code, ça m'a jamais rebuté, même si je suis pas codeur, loin de là. Simplement, ça ne m'effraie pas. Il faut savoir qu'en fait, que Google Ascript, c'est un langage de programmation effectivement qui est basé sur le JavaScript. Oui. Donc si vous avez des bases en JavaScript, bah forcément vous allez vraiment être en terrain connu, vous n'allez pas du tout être perdu.
Et ça fonctionne sur un Chromebook, tout ça? Enfin, quels sont les prérequis pour que ça fonctionne, ce produit?
Bah, les prérequis, c'est simple. Si vous avez un compte Google, que vous avez un navigateur, idéalement Chrome, bien sûr, et que vous avez une connexion Internet, bah, vous avez Google Ascript, de la même façon que vous avez Google Sheets, Google Doc et Google Drive, etc. Ça fonctionne, en fait, côté serveur. Donc, tout ce que vous allez taper, ça va être chez Google, sur les serveurs de Google, et donc, ça ne demande aucune puissance en local. Donc, le Chromebook est d'autant plus indiqué. Dans le sens où le Chromebook à la base c'était ça, hein, c'était d'avoir un ordinateur qui était pas puissant et qui allait chercher. Alors bien sûr tout ça a évolué, mais enfin au départ c'était quand même un peu le concept. Et donc toutes les applications Google Script fonctionnent en fait sur les serveurs de Google et il vous envoie le résultat directement sur votre écran via le navigateur.
Ouais, donc on n'est pas obligé d'avoir un Chromebook Plus, puisque maintenant les Chromebook Plus sont sortis avec une puissance de calcul phénoménale, puisque tout est déporté. Donc c'est finalement l'essence même d'un Chromebook, donc ça va fonctionner parfaitement. Alors du coup, maintenant qu'on sait un petit peu comment ça fonctionne, enfin à quoi ça fonctionne, où ça fonctionne, à quoi ça sert finalement. Tu en as un petit peu parlé, hein, créer des boutons, des petits trucs comme ça, mais comment on peut mettre ça en interaction avec nos différents produits?
Ça sert à plein de trucs. Typiquement, si vous voulez, dans une feuille de calcul Google Sheet, avoir des fonctions customisées, des fonctions rien qu'à vous, vous pouvez, grâce à Google Apps Script, créer vos propres fonctions. Si vous voulez calculer, par exemple, alors c'est un très mauvais exemple, mais enfin, calculer une TVA spécifique, vous pouvez créer la fonction ajoute la TVA. Voilà. Et après, vous allez l'appeler exactement comme les autres fonctions de Google Sheet, hein, égale, et puis vous le nom que vous avez donné à votre fonction, avec les arguments que vous allez mettre entre parenthèses, et hop, ça va faire le calcul. Donc ça, on peut créer ses propres fonctions directement via Google Apps Script dans Google Sheet. On D'accord. peut aussi créer, par exemple, des menus. Vous voulez rajouter un menu avec des choses que vous voulez voir réalisées dans votre feuille de calcul ou dans votre document docs ou dans votre slide, peu importe. Vous pouvez rajouter un menu et des sous-menus et vous allez cliquer sur ce menu, dans ces sous-menus pour aller déclencher une opération, déclencher une automatisation que vous souhaitez voir réalisée par la feuille de calcul ou par le document que vous travaillez.
Et du coup, une fois que tu as fait ça, tu les stockes quelque part, est-ce que tu peux les partager? J'ai en tête dans Google Docs, dans Google Sheets, les extensions qu'on peut amener, est-ce que je peux les partager de la même manière?
Oui, d'ailleurs, c'est ce que tu fais via les extensions. Quand tu installes une extension Google Sheet ou une extension Google Docs, c'est en fait un code Google Apps Script que tu viens installer dans ta feuille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il te demande l'autorisation de lancer cette extension, parce que c'est ni plus ni moins qu'un code Google Apps Script qui a été créé par une tierce personne et que tu vas utiliser toi sur ton document.
D'accord, donc je peux importer toutes celles que je veux. Il y a une base de données d'ailleurs, tu sais, si il y a des personnes qui vont amener une espèce de repère de tous les apps scripts créés.
C'est ceux qui ont rendu public leurs scripts, c'est les extensions justement que tu peux installer sur Google Sheet, sur Google Doc. C'est exactement ça.
Ok, donc super simple à installer. Tu as un catalogue, tu pioches, tu l'installes voilà. Et c'est tout.
Après, ce qui est super intéressant, c'est de les faire soi-même. Parce que là, pour le coup, ça va être hyper, hyper personnalisé. Et puis, il y a ce côté un peu plaisant aussi de faire les choses soi-même. Hein.
évidemment. Alors, ça a l'air génial en soi. Donc, on peut interagir donc avec tous les outils Google. Tiens, j'ai vu que tu mettais, par exemple, que tu peux créer une carte via Google Maps, c'est ça?
Oui, typiquement, moi, c'était un des premiers exercices que j'avais fait quand j'avais commencé à apprendre le langage. J'avais une feuille de calcul avec des contacts, avec le nom, le prénom, l'adresse. Et puis, j'avais créé un petit script qui permettait, quand tu appuyais sur le bouton, de créer une carte Google Maps et puis de localiser les différents contacts sur la carte.
Ça, c'est tout à fait possible. On peut le retrouver sur la page de Google pour nous aider à développer tout ça. Donc, si je vais sur Google Apps Script, il y a moyen qu'il nous donne des exemples.
Il y a un super... Il y a quelque chose de génial, c'est que ce soit dans Google Apps Script ou même pour l'outil dont on va parler tout à l'heure, Make, les documentations sont super complètes et super bien faites. D'ailleurs, au début, il y a quelques notions à comprendre, les notions de programmation en JavaScript. Hein. Et une fois qu'on a compris ces notions, les quelques mots-clés, les boucles for, les conditions avec les if, et etc. Une fois qu'on a ça, à partir de ce moment-là, il suffit d'aller dans la doc de chez Google liée à Google Apps Script. Et là, on a absolument tout le détail. On cherche, enfin moi c'est comme ça que je procède, hein. Quand je me pose une question en me disant tiens comment je pourrais faire ça, je fais une recherche dans Google, je fais une recherche dans la doc de Google Apps Script et généralement je trouve assez facilement ma solution.
Bah, ça a l'air assez sympa, mais du coup, c'est gratuit. Tu as toute la doc en ligne offerte, tu n'as pas besoin d'un ordinateur puissant, il y a bien des limitations à tout ça.
Oui, alors il y a quelques limitations que je n'ai jamais moi... abordé. Enfin, j'ai jamais réussi à aller, ne serait-ce qu'effleurer les limitations que Google a mis. Comme je l'ai dit, par exemple, j'en ai pas parlé, mais par exemple, on peut très facilement créer des emails via Gmail depuis une base de données qu'on va avoir dans Google Sheets. Je vais avoir une base de données et puis je vais demander, par exemple, de créer un mail en fonction de cette base de données directement via un petit code Google Apps Script. Forcément, il peut y avoir des comment?
Un public postage, finalement, tu pourrais faire.
Un public postage, mais ça peut aussi être du spam, typiquement. <Oui. rire> Donc, c'est pour ça que Google a mis quelques limitations. Donc, dans ces limitations, il n'y a pas plus de 2000 emails par jour. Ça va, c'est déjà assez conséquent. Forcément, pour un particulier comme moi, maintenant, pour une entreprise, ça peut être la limite, peut-être. Sans doute facilement atteinte. Je ne sais pas comment ces limitations changent à partir du moment où on a un compte entreprise Google. J'en ai aucune idée. J'avoue que j'ai pas fait la recherche. Pardon. Mais pour le coup, en tant qu'utilisateur avec une adresse Google gratuite, on a cette limitation de 2000 emails par jour. Même chose, les programmes, s'ils tournent de façon automatique plus de 6 minutes. Là, Google va imposer une limite. Maintenant, faire tourner un programme sans intervention humaine qui va tourner 6 minutes en JavaScript sur les serveurs de Google, c'est pareil. Moi, j'ai pas assez de mes 10 doigts pour taper du code. Bon, si on fait une boucle infinie, par exemple, ça c'est facile à faire dans n'importe quel langage de programmation. Si on fait une boucle infinie, elle va être cassée au bout de 6 minutes par Google.
C'est peut-être pour éviter la saturation des serveurs.
Oui, voilà, tout simplement. Hein. Simplement.
Et d'autres limitations ou c'est tout
après, en fonction des outils, alors notamment les outils comme Gmail, il y a d'autres limitations. Vous les trouverez facilement en faisant une recherche sur Google. Mais les principales, c'est celles que j'ai données là, c'est les 2000 emails et puis les 6 minutes d'automatisation côté serveur.
C'est top. Bon, du coup, rien ne nous empêche de le tester dès à présent et puis de
s'amuser. Après, une autre limitation aussi, ça reste le fait, ça paraît idiot de le dire, hein, mais il faut un compte Google pour l'utiliser. Voilà.
Bien sûr, c'est un des
prérequis. Ça peut en déranger certains.
Généralement, si on est sur Chrome OS ou Android, on en a un. Donc, tout
en ce qui nous concerne, je pense pas que ça soit une vraie limitation. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Après, le sujet est vaste de Google Ascript. Il y a plein de possibilités. C'est vrai que je sais pas si y a des questions j'ai pas regardé dans le chat par rapport à ça. Le sujet est vaste.
Pour le moment, non.
Il y a besoin de quelques notions de base. Mais à partir du moment où on a intégré ces notions de base, on peut facilement commencer à bidouiller des trucs très très sympas, quoi.
J'ai déjà en tête pas mal de choses. De toute façon, on en reparlera de tous les deux sur plein de sujets d'automatisation. D'ailleurs, allons maintenant dans l'autre logiciel que tu as proposé, qui fait partie des produits d'automatisation qui sont de plus en plus connus sur Internet. Alors, j'en ai quelques-uns en tête, mais on va pas tous vous les sortir. Tu voulais nous parler de Make, d'Integromat, du coup. Qu'est-ce que c'est que Make? Est-ce que c'est... Enfin, comment tu l'as découvert déjà et pourquoi je pourrais en avoir besoin?
Alors, Make, c'est un outil qui a un peu le vent en poupe en ce moment, tout simplement parce que ce qu'on appelle le no-code a le vent en poupe. Et pour le coup, Make, c'est un outil qui est très, très développé parce qu'il intègre déjà énormément d'outils, d'API en fait, hein, d'applications extérieures qui sont intégrées dans Make, et ouais. C'est pour ça que ça le rend très très intéressant. Donc le principe, hein, pour moi, c'est une plateforme, un site internet, hein, sur lequel on va, et puis qui permet de faire interagir différentes applications, d'aller chercher des infos dans une, les exploiter dans une autre, leur faire des choses, bref, créer des automatisations. Donc, c'est une automatisation en no-code. Contrairement à Google Ascript, l'avantage des outils comme Make, c'est que il n'y a pas besoin de connaître de langage de programmation. C'est très visuel. Il suffit de poser des éléments sur l'écran. Typiquement, je pose un élément formulaire et puis je pose un élément Google Sheets, par exemple. Et je vais pouvoir faire passer les éléments de mon formulaire dans le Google Sheets pour pouvoir avoir ma base de données, mon tableau qui se remplit.
Regardé, c'est un peu comme IFTTT dans le même esprit, je crois.
C'est dans le même esprit, en beaucoup plus développé, dans le sens où on va aller chercher toutes les informations qu'on va pouvoir obtenir. Si on prend l'exemple du formulaire, chaque champ du formulaire, on va pouvoir aller les rechercher et puis les utiliser dans le cadre d'une automatisation. IFTTT, c'est souvent, si tu fais une chose, tu obtiens tel résultat. Là, avec Make, on développe vraiment, mais c'est la même idée et c'est le même type d'interface. Des modules qu'on vient mettre les uns à côté des autres et qui vont pouvoir interagir entre eux, quoi.
Ouais, j'ai regardé, tu poses tes deux modules, tu mets en gros, tu les relis l'un à l'autre via un trait avec une certaine formule qui est pré-intégrée de toute façon. Et j'ai juste eu les premières questions. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça sympa de cliquer, il y en avait partout. Après, il m'a demandé de renseigner les API de chaque service que j'utilisais. C'était le seul point achoppant pour moi, c'est ces fameuses API. Je me suis dit, mais comment je les trouve? Puis finalement,
Là encore, il y a un truc qui est super bien fait dans Make, c'est l'aide, la documentation. À chaque fois qu'on va poser un module, si le module nécessite d'aller chercher des clés API pour pouvoir les utiliser, il suffit de cliquer sur « comment je les obtiens » et puis on arrive sur une page où tout est super détaillé. C'est presque du pas à pas. Donc, pour le coup, ils ont vraiment soigné énormément l'outil d'aide, toute la documentation, et il suffit de suivre, de lire ce qui est écrit. Une des limitations, un des points faibles, j'allais dire, de l'outil, c'est que c'est tout en anglais. Avec Google Translate, on s'en sort pas mal. Hein. Enfin, moi, je m'en sors bien avec quelques notions d'anglais et puis Google Translate pour le vocabulaire très spécifique que je vais pas pouvoir connaître. Je m'en sors parfaitement, quoi.
Oui, et c'est très, très intuitif, hein, en soi, même... Enfin, ça parle, les éléments parlent d'eux-mêmes quasiment. Donc, même si tu ne parles pas ou si tu ne sais même pas lire, ça peut presque être suffisant déjà.
Ouais, ça a des formes de patates. Enfin, c'est des ronds comme ça, les modules. Donc, on va poser un module et puis il va y avoir un petit crochet au module. Il suffit d'en approcher un deuxième, ils vont se relier. Et puis, parfois, y a des modules qui peuvent être liés à plusieurs autres. On va pouvoir créer des routes, des chemins comme ça en fonction de ce qu'on veut faire. On va pouvoir mettre des filtres sur les liens entre les deux modules. Typiquement, ouais. Si le filtre qui va vers le haut est pas bon, l'automatisation va suivre le deuxième lien qui lui va être valide, etc. Donc on va pouvoir comme ça créer la même chose qu'en langage de programmation, on va avoir un if. S'il se passe quelque chose, dans ces cas-là, tu fais ça, ou alors tu vas là, ou alors tu fais ci, ou enfin bon, bref, on automatise exactement comme on le souhaite, quoi.
Et toi, comment tu l'as découvert et comment tu t'en sers aujourd'hui? Parce que là, je vois dans le chat, il y a Mister Robot qui nous dit, on peut créer quoi du coup? À quoi ça sert? On peut créer un OS, un système d'exploitation directement?
Non, c'est vraiment le fait de faire interagir des modules, des applications entre elles. Moi, personnellement, j'ai découvert quand j'ai cherché à automatiser ChatGPT. ChatGPT, c'est sympa, on en a parlé. Moi, j'aime beaucoup l'idée. et je m'en sers au quotidien, notamment pour le boulot. Hein. Typiquement, je lui fais faire des emails de prospection, je lui fais faire des posts LinkedIn ou des choses comme ça. Sauf qu'à chaque fois taper ou même copier-coller le même prompt, je trouvais ça un petit peu agaçant, surtout qu'on utilise un ordinateur et qu'on se dit que l'automatisation est possible. De ce fait-là, j'ai cherché des outils pour automatiser ChatGPT. C'est là que je suis tombé sur Make, parce que justement, il y a un module ChatGPT.
Et dans ce module ChatGPT, tu peux même avoir la version gratuite de ChatGPT ou tu es obligé d'avoir la version payante?
Non. Alors en fait, il va pas utiliser le ChatGPT qu'on utilise au quotidien, c'est-à-dire le chat. Il va utiliser la plateforme ChatGPT, donc qui est payante, mais qui est payante de l'ordre de 0,0001 $ par 1000 tokens. Donc les prix sont vraiment très bas. Bon, ChatGPT en offre quelques-uns au départ, mais globalement, si on s'en sert de manière intensive, on va être facturé de 3, 4, 5 dollars dans le mois, quoi. C'est vraiment pas onéreux, sauf à en avoir une utilisation industrielle, forcément. Mais si on l'utilise comme ça, de façon, encore une fois, personnelle, ou même moi, au niveau du boulot, je l'utilise quotidiennement. J'ai eu des facturations de l'ordre de 3, 4, 5 dollars maximum par mois.
Oui. Ouais. Et du coup, tu le dis, tu utilises pour créer du mail via un prompt ChatGPT. Tu peux t'en servir pour quoi d'autre aujourd'hui? Comment que tu t'en sers en plus de ça? Est-ce qu'il y a des éléments?
Les possibilités sont infinies. Bon, moi, comme je l'ai dit, je m'en suis servi au départ pour ChatGPT. Le principe était simple. Hein. Je mettais dans un fichier Google Sheet les coordonnées de mes prospects. J'allais chercher les infos sur leur profil LinkedIn, donc je complétais comme ça une fiche entre guillemets personnalisée pour chaque prospect. Et ensuite, avec mon automatisation, je vais chercher les informations dans le Google Sheet. Ça crée un prompt, donc je crée un prompt directement dans l'outil Make. Et à partir de là, je vais pouvoir lui demander un mail hyper personnalisé en fonction des centres d'intérêt, en fonction de l'entreprise de mon interlocuteur, etc. Donc chaque mail qui sort de cette automatisation va être complètement différent. Après, si tu veux créer, une facture, un système de facturation, c'est tout à fait possible de le faire dans Make. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est possible d'imaginer, qui peut être automatisé, globalement, vu la grande ouverture de Make en termes d'intégration d'outils utilisables à travers Make, c'est comme dans tout type de programmation, même si là il n'y a pas de code, les solutions sont les possibilités sont énormes.
Ouais, et donc ouais, ce que je vois, c'est que là, donc de ce que tu me dis, tu utilises Google Sheets pour compléter des colonnes, donc nom, prénom du prospect, entreprise, intérêt, nom de l'entreprise. Avec Make, tu récupères dans chaque ligne chaque élément que tu as besoin pour générer un prompt que tu vas faire manger à ChatGPT pour qu'il te génère un mail qui sera réinjecté dans Gmail ou un truc comme ça.
Directement, ouais. Ah
Ah
ouais,
ouais,
tu peux le
donc.
faire envoyer directement depuis Make en utilisant ton Gmail, ouais.
Ouais,
Ou,
c'est.
alors c'est compatible avec la suite Google, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. C'est compatible avec toute la suite Microsoft. C'est compatible avec tous les réseaux sociaux,
Ah, tu me dis LinkedIn, ouais.
LinkedIn, Facebook, Twitter, enfin X, tout ce que tu veux, hein. Il y a, je te D'ailleurs, on mettra dans le lien, dans l'article, le lien vers la page où tous les outils que permet d'utiliser Make est recensé. Et il y en a 1615 à ce jour. Donc,
Ah, c'est énorme.
autant dire qu'il y a vraiment de quoi faire, hein. Et ça va de tout, la météo, enfin, il y a vraiment de tout. Typiquement, vous pouvez aussi intégrer votre propre mobile Android dans les automatisations. Ce qui fait que vous pouvez avoir des notifications, créer des, ça vous lance des notifications en fonction de tel ou tel événement. Si
D'accord.
demain il pleut, vous avez une automatisation qui tourne en tâche de fond chez Make. Si demain il pleut, vous pouvez recevoir une notification en disant de ne pas oublier votre parapluie, typiquement.
Ce qui est une bonne idée. On nous demande dans le chat, demain, y aura-t-il de l'IA dans tout ça, dans ces produits? As-tu une idée?
Dans Make,
Ouais, dans Make, par exemple.
sans doute, oui. Dans l'aide à la création, oui, j'imagine. Il y a déjà l'intelligence humaine, dans le sens où il y a plein de templates qui sont créés par des utilisateurs et qui suffit, d'ailleurs, comme dans IFTTT, hein, il suffit d'aller rechercher ces templates et puis de les adapter à sa propre sauce. Après, sans doute qu'il y aura des applicatifs, enfin, un petit peu d'IA qui va être intégré là-dedans. Pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt parce que l'idée, c'est au contraire d'aller utiliser l'IA pour l'automatiser.
Et d'aller chercher les choses à droite à gauche, compléter l'outil. Il faudra qu'on se cale dessus parce que, bah, tu le sais, j'ai envie d'automatiser certaines choses pour My Chromebook. Et du coup, il y a quelque chose à faire, il me semble d'être super
Mais
intéressant. J'y vois
la
plein
création
d'avantages.
d'articles, il y en a d'ailleurs qui ont déjà bien, comment on appelle ça, user de Make et de ChatGPT pour pouvoir automatiser complètement la création d'articles de façon industrielle, on
Mécanique,
va dire.
ouais, c'est ça.
L'outil peut te permettre de pondre 10, 15, 20 articles pour My Chromebook par jour de façon complètement autonome, sans même que tu interviennes. Dans le sens où tu vas simplement écrire des idées, des mots-clés, des phrases, et puis tu vas le mettre dans une base de données Notion, par exemple, Notion, ou dans un Google Sheet, ou peu importe. Et puis, l'outil va aller chercher ces idées, va créer le titre de ton article, ensuite va créer le plan de ton article, va créer l'article lui-même, va corriger lui-même l'article, et va l'envoyer dans ton WordPress, prêt à être publié. Ça
Ça,
aura juste les illustrations à rajouter et encore, je sais pas,
et
il va y
encore.
avoir des moyens de les faire sans souci, ouais.
Ouais, ChatGPT a rajouté Dali
D'ailleurs, ouais.
dans son chat. Donc, du coup, ça se trouve, on peut peut-être même générer
Oui, sans doute,
l'image
j'ai pas
directement.
précisé, mais enfin, typiquement, l'automatisation comme ça de création de contenu, c'est un peu ce que je fais moi dans le cadre du boulot, hein, c'est de la création de contenu, mail, post LinkedIn ou autre, mais en utilisant cette solution-là. Si ce n'est que moi j'aime bien contrôler, donc j'automatise pas de façon industrielle, mais parce que je me méfie toujours de ce que l'IA peut me sortir. Mais oui, effectivement, c'est tout à fait possible et je suis convaincu que c'est un procédé qui est déjà utilisé largement, ouais.
Oui, bah, clairement, on l'a vu dans certains cas aux États-Unis, certaines sociétés se sont débarrassées de tous leurs journalistes pour faire que ça. Est-ce que c'est bien? Ça, c'est une autre question, mais voilà. Donc, il y a pas mal d'avantages, tu me disais. Donc, en gros, dans Make, aucun code, juste du
Non.
glisser-déposer. C'est je pose des briques et je les assemble ensemble.
Voilà. La seule notion à avoir, c'est la notion de. Il y a pareil, il y a deux trois notions intéressantes à avoir. C'est les variables, le principe des variables, c'est-à-dire que forcément, ce qui va sortir d'un formulaire, on prenait l'exemple du formulaire tout à l'heure, ce qui va sortir d'un formulaire, bah, le nom du gars, son adresse mail, ça va être intégré dans une variable qu'on va réutiliser ensuite dans les autres outils. Donc, c'est le même principe qu'une variable en programmation. Il va y avoir ce qu'ils appellent des itérations, c'est-à-dire que un module va pouvoir sortir, par exemple, une liste de 10, si tu, on prend le module ChatGPT, tu lui demandes de te sortir 10 mots-clés spécifiques à tel domaine, au marketing, je sais pas, aux voitures électriques, ou peu importe, quel que soit ton blog, tu lui demandes 10 idées de mots-clés, il va t'envoyer un tableau de 10 idées, et ben, il faut faire en sorte que le traitement se fasse sur les 10. Donc oui. Voilà, il y a deux, trois petites notions comme ça qui s'apprennent en une heure ou en deux, et puis à partir de là, ça roule, quoi.
Alors, du coup, c'est génial. Et du coup, c'est une société américaine, j'imagine, mais on doit être dans ces, on doit être de ce côté-là.
J'ai la curiosité d'aller voir, mais sans doute, oui.
Quel est, parce qu'on connaît, on connaît les sociétés américaines qui aiment bien se gaver de nos données personnelles. Est-ce que, mec, il faut s'en méfier un petit peu ou pas du tout au niveau protection des données?
Alors déjà, son propre compte est assez protégé parce qu'il propose des dispositifs de sécurité comme l'authentification à deux facteurs. Ouais. Ils font attention aussi aux adresses IP que tu utilises, donc il y a un filtrage à ce niveau-là. Et puis surtout, tous leurs outils sont mentionnés comme étant en conformité avec la RGPD et pour les Américains, au CCPA.
Okay,
donc, a priori, ils ont l'air assez soucieux de tout ça, même si finalement, c'est les obligations légales qui ne font qu'appliquer, quoi. Après, il y a quand même, on parlait des avantages, j'ai parlé déjà de la documentation qui est très très fournie et très claire. Et puis, le no-code, le fait de pas devoir maîtriser un langage de programmation, et vu la quantité infinie de possibilités que propose l'outil, franchement, comme dirait un animateur de podcast célèbre, c'est vraiment bluffant. Hein.
C'est bluffant. Ouais. Effectivement. Alors que des avantages, il n'y a aucun inconvénient finalement à cet outil-là, il faut foncer tête baissée.
Si, en ce qui me concerne, il y a un inconvénient, c'est que c'est uniquement en anglais. J'ai hâte qu'ils fassent une traduction du site en français, ce serait pas mal pour nous. Et puis, c'est comme tout ce type de plateforme, que ce soit Google Apps Script tout à l'heure dont on parlait, mais Make là, on dépend de la plateforme. C'est-à-dire que les outils, si Make ferme demain, toutes nos automatisations, on peut dire adieu. Elles partent à la poubelle avec, quoi. Et puis, on le disait, c'est pas forcément. Alors, de base, l'outil est gratuit. Il y a assez peu de limitations pour une petite utilisation comme ça en tant que particulier. Par contre, à partir du moment où on crée beaucoup d'automatisations qui tournent en tâche de fond sans même notre intervention, typiquement des choses qui vont se déclencher à telle heure chaque jour ou qui vont se déclencher en fonction d'un événement. Donc, à partir du moment où les outils sont obligés de surveiller et de tourner en tâche de fond comme ça, là, on est limité à... Pour un compte gratuit, je crois que c'est deux qui tournent comme ça en tâche de fond. Moi, je les fais pas tourner en tâche de fond, donc je suis pas confronté à cette limitation. Je préfère les déclencher moi-même. Donc, en tout cas, celles que j'utilise. Maintenant, si on fait des automatisations comme le fait de savoir s'il faut prendre son parapluie, là, il faudrait la laisser tourner en tâche de fond. Mais j'en ai pas qui tournent en tâche de fond comme ça. Mais même le premier prix est pas très cher. J'ai pas bien fait mes devoirs, j'ai pas regardé le prix, mais c'est vraiment pas cher. Et puis, c'est pareil. Le nombre d'actions, le nombre de données qui sont échangées entre les différents éléments, on est plafonné par mois pour le compte gratuit à un certain nombre, mais que je n'ai jamais atteint là non plus.
Ok. Bon. Voilà. Donc, du coup...
Et ces limitations de façon sont clairement détaillées dans. Il suffit d'aller dans l'onglet billing pour la facturation et forcément il va y avoir le détail qui va être écrit sur la page de Make, quoi.
Donc, même en version gratuite, il y a de quoi s'amuser. Donc, entre UpScript et Make, on a de quoi essayer des automatisations à tout va dans tous les sens sur nos Chromebooks sans aucune difficulté. Alors, moi, je suis impatient qu'on en discute entre nous pour tester Make et Google Sheets et ChatGPT. Enfin, tout ça. J'ai pas beaucoup de temps comme toi en ce moment, mais je suis impatient de tester tout ça. Merci, Olivier, pour cet éclaircissement sur des produits qui sont hyper accessible finalement et accessible avec n'importe quel appareil. On pourrait presque le faire avec un smartphone finalement, hein, de tout ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de raison, hein, je crois que Make marche.
Google Apps Script, par contre, ça c'est une délimitation de, j'en ai pas parlé, mais une délimitation de Google Apps Script. Si vous avez un document dans lequel vous avez des modules, typiquement un menu complémentaire, dans l'application mobile, il n'apparaît pas, malheureusement. Uniquement sur la version PC. Desktop, c'est assez dommage parce que typiquement moi j'ai un fichier avec mes comptes, j'ai plein d'automatisations parce que je suis un gros feignant, donc j'aime bien quand les choses se font automatiquement. J'ai un menu spécifique que j'avais créé en Google Apps Script, j'y ai pas accès depuis mon mobile, je suis obligé de le faire depuis un PC, donc je suis obligé d'ouvrir mon Chromebook, ce qui est quand même un comble, quoi.
Quand même. Bon, c'est déjà bien, après, on peut le faire.
Et pour conclure sur ces outils, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par plus de détails, dites-le nous et puis on pourra peut-être creuser un des deux sujets ou les deux, peu importe. Là, c'est vrai que j'avais proposé ce sujet à Nicolas pour parce que moi c'est quelque chose qui me passionne, donc forcément je trouve ça vachement chouette, mais comme j'expliquais à Nicolas, je sais pas vous si ça vous intéresse, si c'est vraiment un domaine que vous souhaitez explorer ou pas du tout, et puis si c'est le cas, faites-nous signe et puis on pourra peut-être creuser un peu le sujet.
Voilà, ça dans les commentaires de l'émission, hein, tout simplement, un petit commentaire.
N'hésitez pas, faites vos courses et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire.
Top. Merci. En tout cas, un sujet intéressant. On va passer au deuxième sujet, beaucoup moins complexe, qui fait beaucoup moins de choses hein, que l'automatisation avec Make ou Google. Moi, je voulais vous parler de choses qu'on aborde assez souvent, mais pas toujours en même temps. Toutes les petites astuces pour bien utiliser son Chromebook, parce qu'on est nombreux, de plus en plus nombreux, à utiliser un Chromebook. Et ça, c'est la joie de Google. Enfin, c'est une joie pour Google et une joie pour nous, parce qu'on voit arriver de plus en plus d'utilisateurs sur le salon Discord, par exemple. On a de plus en plus de questions autour de ce produit. Il y a une question qui revient souvent, comment j'utilise bien mon Chromebook ? Et des fois, c'est des détails. Et quand j'ai proposé à Olivier d'en parler, il m'a dit, je vois pas ce qu'il y a de compliqué à faire telle ou telle action. Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, tout simplement, oui, nous, on est habitués, on maîtrise, mais c'est pas parce que c'est simple que tout le monde le sait. Et ce soir, je voulais vous parler de plusieurs actions. Alors, moi, j'adore les raccourcis clavier. Donc, du coup, je voulais vous parler de quelques raccourcis clavier qui me semblent être hyper importants à connaître sur un Chromebook. Le premier, Olivier, tu me diras ce que tu en penses et si tu l'utilises. Vous l'avez remarqué, sur un Chromebook, il n'y a pas la touche verrouillage majuscule. C'est inadmissible. Google l'a remplacé par la touche « tout ». Everything's ou la loupe pour les petits, les intimes. Cette touche tout, elle est capable de faire énormément de fonctionnalités et assemblée à une autre touche, elle nous permet de démultiplier les solutions logicielles, software directement sur notre Chromebook. Alors il y a la première que j'utilise beaucoup, donc pour verrouiller les majuscules sur ton Chromebook. Je sais pas si tu le fais, mais il suffit d'appuyer sur cette fameuse touche tout plus la touche Alt. Donc, les deux combinés va verrouiller en majuscule ton clavier. Alors ça, c'est génial parce que évidemment, tu vas pouvoir taper des majuscules à la volée autant que tu veux. Tu peux écrire en gros, en majuscule, la totalité de ton email. Bon, ça veut juste dire que tu cries sur la personne, mais ça fonctionne. Mais il y a une chose qui est magique avec ce système-là et que peu de monde connaît. Quand tu verrouilles en majuscule touche Alt, la touche tout plus Alt, tu peux également taper en majuscule les caractères accentué, tu sais, le E accent, grave aigu, le A accent, et ça c'est étonnant, sur aucun autre clavier, enfin moi je connais pas, sur Windows en tout cas, tu ne peux pas taper les majuscules accentuées, tu es obligé de taper l'esperluette et puis le raccourci que tu dois connaître par cœur. Sur Chrome OS, touche touche tout, plus Alt, plus la touche 2 de ton clavier, et hop, tu fais un accent sur ton E majuscule. Moi, je trouve ça exceptionnel. Est-ce que toi, Olivier, tu l'utilises ? Est-ce que tu l'avais déjà maîtrisé, ce raccourci clavier ?
Oui, je l'utilise. C'est vrai que, bah, comme tu disais, c'est vrai que c'est des choses qu'on utilise tellement au quotidien qu'on se rend plus compte de la chance qu'on a avec le Chromebook pour ça. Petit bémol, comme là, ce soir, j'utilise un clavier externe. Là, j'ai une touche majuscule, verrouillage majuscule, et pour le coup, on perd cette fonctionnalité-là.
Alors, c'est dommage. Figure-toi que non, parce que si tu as un clavier... Alors moi aussi, j'utilise un clavier classique, j'en ai même deux sur moi. La touche, par exemple, si tu as un clavier Windows, parce que souvent, ils sont sous ouais, Windows, le clavier qu'on achète, bah, le bouton Windows de ton clavier, où moi, il est écrit « démarrer » dessus, fait office de touche tout. Donc, je t'apprends ça, et comme plein d'autres personnes, si tu utilises la touche Windows de ton clavier...
Ah ouais, ça marche.
Ça marche, ouais. Effectivement. C'est cool. J'ai vu ton sourire.
Ah ouais. Et le A majuscule avec l'accent, celui que je cherche tout le temps.
Voilà, ouais, bah, il est là.
J'ai gagné ma soirée.
Et c'est la même chose avec un clavier Apple. Tu appuies sur la touche, je crois que c'est commande ou pomme, je ne sais plus comment il l'appelle, ouais. Ça transforme ça. Ceci dit, si tu n'avais même pas de touche, tu peux aller dans les paramètres de Chrome OS et aller personnaliser la touche. Par exemple, tu peux virer la touche Caps Lock et lui dire « Oui, bah, tu me lanceras la touche Everything. » Et ça peut fonctionner, mais ça mérite un paramétrage, donc c'est plus complexe que d'appuyer sur la touche Windows.
Non, mais là, tu as fait ma soirée, là. Rien qu'avec ça, c'est bon.
Mais écoute, c'est parfait, ça me fait plaisir. Si ça peut être la même chose pour nos auditeurs, ça sera très bien. Deuxième chose que j'utilise énormément depuis que ça est arrivé sur mon Chromebook, toujours avec la touche tout, donc la touche démarrer, hein, si tu en as besoin, avec la touche tout, je complétais avec la touche V, tu vas pouvoir aller appeler le presse-papier. Donc le presse-papier, c'est tu fais un contrôle C, tu copies du texte, et au fur et à mesure, ben, ce presse-papier se remplit de tes 5 dernières copier-coller, en fait. Et d'ailleurs, avec la dernière version de Chrome OS, tu vas même voir si c'est du texte, si c'est une image, si c'est un hyperlien. Et tu peux remplir ton presse-papier de tes 5 derniers copiés. Et puis ensuite, en appelant, donc touche V, tu accèdes à ton presse-papier. Tu peux sélectionner le copier que tu as fait en troisième position. Tu n'es pas obligé d'aller chercher le premier, parce que le CTRL-C, CTRL-V, ça colle le dernier que tu as copié. Et là, tu vas pouvoir sélectionner. Et moi, j'adore ça parce que, par exemple, quand je fais un post sur LinkedIn, je le tape dans Google Docs pour éviter d'avoir trop de fautes. Je le copie, mais souvent, j'ai un lien que j'avais copié juste avant que je voulais mettre, une image que je voulais mettre. Bah, maintenant, je les mets les trois dans mon presse-papier. Et quand je vais sur LinkedIn, je pose mon texte, mon lien, ma photo. Et tout est au même endroit grâce à mon fameux presse-papier et la touche tout plus V. Je trouve ça génial. Pareil, Olivier, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, le presse-papier ?
Celui-là, il est rentré dans les mœurs depuis qu'il est apparu, oui. Ça fait quelques versions. Mais c'est super pratique parce que un seul copier-coller, on se rend compte que c'est un peu court souvent. On est tellement habitué qu'on n'y fait pas forcément attention, mais à partir du moment où on commence à goûter au fait de pouvoir aller chercher un historique des copiers, là, franchement, c'est vrai que c'est super agréable.
Ouais. Et ce qui serait bien, c'est que ton presse-papier soit connecté avec ton smartphone Android. Ça serait génial. Ou tu copies sur ton smartphone, tu le retrouves sur ton Chromebook. Ça serait vraiment top. Mais Google y travaille peut-être.
Ça peut arriver, ouais, s'ils y ont pensé. Et si vous écoutez l'émission, les gars.
Ouais, n'hésitez pas. Hein. ça va venir avec Phone Hub qui est de plus en plus complet. Hein, donc, je pense que ça ne va pas tarder. Hein. Il faudra juste le lier au compte Google. Troisième astuce que j'utilise, mais régulièrement, vous avez tous sûrement des assistants personnels à la maison. Tu sais, les fameux OK machin, allume la lumière du salon, éteint la lumière. OK, est-ce qu'il pleut? Combien de temps je vais mettre pour aller à tel ou tel endroit? Donne-moi mon agenda, blablabla. Vous le savez, il y en a plein. Sur Chrome OS, il n'y a pas une touche magique qui te permet de l'appeler jusqu'à ce que tu Ah, bah, il me parle, tiens, il m'a compris. Il n'y a pas cette touche magique qui me permet de m'appeler. Et, mais malgré tout, Google a rajouté une fonctionnalité grâce à la touche tout de Chrome OS. J'éteins mon assistant en même temps. grâce à la touche tout plus la touche A, tu peux faire appel à l'assistant personnel de Google, donc qui va s'ouvrir. Tu n'auras plus qu'à saisir le texte. Alors évidemment, dans les paramètres de Chrome OS, tu peux carrément lui demander en vocal d'être appelé à tout moment. Mais moi, j'utilise la touche tout plus A pour éviter justement d'avoir à parler puis qu'il y ait n'importe qui autour de moi qui se déclenche dans tous les sens. Moi, c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment et qui est vraiment génial au quotidien. Donc, j'adore ça. Je vois que tu l'as utilisé d'ailleurs pour allumer les lumières derrière toi. Olivier, donc je pense que c'est quelque chose qui te parle également.
Ben oui, oui.
Une autre chose qui me plaît beaucoup, c'est moi j'adore segmenter mon écran en plusieurs, tu sais, scinder. Donc une partie à droite, une partie à gauche, une partie plus grosse que l'autre, une partie moins grosse que l'autre, une plein écran, des choses comme ça. Et Google a rajouté depuis deux versions, je crois depuis la 117, 118, je ne sais plus, de Chrome OS, la possibilité de poser ta souris sur le petit carré en haut à droite de ta fenêtre Chrome, celle qui juste à gauche de la croix, qui te permet, quand tu poses ta souris dessus, d'avoir un petit pop-up avec les différentes solutions pour segmenter, scinder ton écran directement. J'en avais marre d'utiliser ma souris en permanence, donc je me suis dit, est-ce que Google n'aurait pas créé une solution pour que je puisse scinder facilement et rapidement toutes les fenêtres présentes sur mon ordinateur? Et là, miracle, la touche tout est encore venue à mon secours avec un accès au fenêtrage de Chrome. Donc, touche tout plus la touche Z te permet d'afficher directement le pop-up. Il n'y a plus qu'à sélectionner le fenêtrage que tu veux. Moi, je trouve ça génial. J'utilise ça, mais tout le temps. Et ça me donne énormément de temps, du coup, et des déplacements de souris en moins. Et c'est étonnant, mais le fait de poser ma souris, d'attendre quelques secondes que ça s'affiche, me faisait perdre du temps. Et pourtant, ce n'est que quelques secondes. Alors, je sais qu'avec l'automatisation, tu comprends mon problème de perdre des secondes.
Mais non, mais c'est tout l'intérêt des raccourcis clavier, hein. De toute façon, c'est vraiment d'éviter de perdre du temps à faire défiler son écran, à aller chercher des menus ou des choses comme ça. C'est vrai que les raccourcis clavier, c'est intéressant pour ça. Et puis celui-là, je ne le connaissais pas, je viens de le découvrir. Sans doute parce que, alors peut-être qu'il vient de sortir avec la 118 ou peut-être avec la 117, mais comme moi je suis en stable et sans aucun flag, je le connaissais pas, je l'avais jamais appliqué. Et ni utilisé, et je crois que il va rentrer dans les habitudes, celui-là aussi.
Ouais, il est vraiment pratique, utilisez-le si vous l'avez jamais essayé. Touche tout plus Z, c'est vraiment magnifique, ça permet donc d'accéder au fenêtrage Chrome très rapidement. Quand on parle de fenêtres, on parle souvent de bureaux virtuels. Je sais que Laurent nous écoute, et les bureaux virtuels, lui, il n'en a pas un, il n'en a pas deux, mais il en a huit au minima. Et sans parler du nombre d'écrans qu'il doit avoir devant lui aujourd'hui quand il nous écoute. Alors, quand on veut passer d'un écran, d'un bureau virtuel ou à un autre, il y a plusieurs solutions, hein. Si tu es sur un Chromebook, tu scrolles tes trois doigts vers le haut, et ça t'ouvre la partie en haut avec tous tes bureaux virtuels ouverts. Ensuite, avec ta souris, tu viens cliquer sur le bureau virtuel que tu veux ouvrir, et là, il s'ouvre et tu peux travailler sur ce fameux bureau virtuel. Oh là là, qu'est-ce que c'est long d'utiliser une souris, mais qui a inventé la souris? Bon, c'est pas si mal que ça quand même. Eh bien, avec Chrome OS, tu vas pouvoir passer d'un bureau virtuel à un autre, toujours avec cette fameuse touche tout. La touche tout, elle sert à tout. C'est pas compliqué, tu l'additionnes avec une autre touche. En l'occurrence, si tu veux aller sur le bureau virtuel qui est sur la droite, tu fais touche tout plus de l'art. Et si tu veux revenir à un bureau virtuel qui est sur la gauche, la touche tout plus, alors c'est les deux petits points, les trémas, je crois. Et puis
ouais, l'accent circonflexe.
Ouais. Donc, tu te déplaces d'un bureau virtuel à un autre, comme ça, en fonction de la position où tu es, sur quel bureau virtuel où tu es. Donc, si tu es en plein milieu, qu'il y en a un de chaque côté, bah, tu peux aller de l'un à l'autre très facilement.
Ouais, d'ailleurs, moi, j'utilise les bureaux virtuels. Je ne les utilise que depuis que j'ai intégré les raccourcis clavier. Parce que justement, comme tu disais, le fait d'aller sur la touche spéciale là, et puis d'aller chercher avec la souris le bureau, finalement, c'était contre-intuitif. Là, le fait de pouvoir le faire directement depuis le clavier, on sait qu'on a la partie réseaux sociaux sur le troisième bureau, hop, on y va en deux touches, et puis c'est vraiment pratique. Ouais. Avant, j'utilisais pas du tout les bureaux virtuels, juste à cause de ça, parce que c'était pas pratique en fait.
Oui, mais c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, il y a un flag qui est en train d'être, enfin, qui est créé, ou même sur un, parce que sur un tactile, c'est moins simple d'accéder au bureau virtuel, ou même si t'as pas envie de scroller, que t'as un vrai clavier et pas une et un vrai clavier et pas le clavier du Chromebook avec le trackpad, tu vas pouvoir rajouter le nom du bureau virtuel sur ton étagère. Tu cliques dessus, tu vas pouvoir choisir les différents étagères avec ta souris. L'air de rien, le fait qu'il soit tout en bas de l'écran est un petit peu plus rapide que quand il est tout au-dessus. Donc, c'est que quelques secondes de scroll, mais c'est toujours important de les avoir sous la main. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les bureaux virtuels. J'en ai trois en permanence, plus un quatrième qui est souvent très vide. Pour faire mes tests, je balance des trucs dedans et ça me permet de ne pas toucher mes trois bureaux virtuels que d'ailleurs, tu peux sauvegarder maintenant depuis un petit moment quand tu éteins malencontreusement ton Chromebook ou que tu as fermé par mégarde un des bureaux virtuels avec tous les onglets que tu avais dedans. Autre solution qu'on utilise tous les deux, d'ailleurs, qu'on a découvert en créant le conducteur, Olivier, c'est une autre fonctionnalité qui, à la base, est une fonctionnalité d'accessibilité qui permet à tout à chacun de rédiger, d'écrire, de composer du texte à la voix. Donc, en fait, la dictée vocale de Chrome OS est disponible très facilement. Hein. Tu vas dans l'accessibilité, paramètres, accessibilité, tu l'actives et ça te crée un petit micro sur la barre d'étagère à côté de l'heure, hein, sur la gauche de l'heure. Tu cliques dessus, tu peux lancer la dictée vocale et quand on a marre, tu recliques dessus pour désactiver la dictée vocale. Alors, ce qui est bien avec cette dictée vocale, c'est qu'elle marche partout. Sur tes mails, sur ton navigateur, sur les applications Android, sur les applications Linux, partout. En fait, c'est pas très compliqué. C'est pas uniquement celle qu'on retrouve dans Google Docs. Hein. Sur Google Docs, il y a juste le fait de discuter à l'intérieur de Docs. Là, vraiment, elle est vraiment partout. C'est pour un usage d'accessibilité. Donc, il l'a rendu disponible partout, Google. Et pour y accéder, bah, évidemment, vous le savez, maintenant, il y a un raccourci clavier qui fait partie de raccourcis que j'adore particulièrement et qui commence, comme toutes celles que je vous ai dit auparavant, par la touche tout. Encore celle-ci, la touche tout plus la touche D. Nous permet d'activer ou de désactiver. Hein. Tu fais touche tout D, ça va l'activer, désactiver automatiquement. Et tu peux, ça lance un petit micro, on le voit, et il est vachement bien fait maintenant dans les dernières versions de Chrome OS. Il est très, très précis. Il y a le petit, on voit ce qu'il entend au-dessus de l'écran. Je ne sais pas si tu as cette version-là déjà, Olivier. Et tu dictes, tu peux dicter les virgules, les points, tu peux les sodines, tu peux tout dicter. Il comprend tout, tout, tout.
Ouais, ouais. Non, et puis en plus facile pour s'en souvenir, hein, touche tout plus D comme dictée, il y avait pas plus intuitif. Et oui, moi c'est quelque chose que j'utilise maintenant de plus en plus. C'est vrai qu'auparavant je me disais tiens, finalement je tape plus vite que je ne parle ou le fait de taper on revient en arrière, etc. Et j'ai changé d'avis complètement parce que je me rends compte que finalement c'est plus facile de sortir un texte comme ça à la dictée et puis finalement de revenir dessus, de faire les corrections a posteriori. Donc, la dictée vocale, c'est une super fonction.
Ouais, et rajouter, moi je dicte, je balance ça dans ChatGPT, il me corrige, parce que des fois il y a des redondances, il y a des. Ouais. Parce que quand tu parles, il y a les E, il y a les A, il y a les temps morts, il te corrige tout ça et après tu peux retravailler correctement ton texte. Je trouve que l'informatique aujourd'hui te donne tellement de possibilités de bien rédiger du texte que ce serait dommage.
Oui, et puis l'extension Language Tool aussi qui permet déjà un gros ménage sur ce que tu as dicté. Ouais. Est-ce que Google a compris ? Parce que des fois, il fait lui-même des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe.
C'est ça. Ou on s'exprime peut-être mal parfois, hein, ça arrive aussi.
Hein. Non, mais il n'entend pas forcément les pluriels. En termes de conjugaison, des fois, il se plante. Donc, c'est normal. Enfin, je veux dire, je ne lui lance pas la pierre. Mais Language Tool déjà fait un premier ménage. Et effectivement, le fait de ensuite réutiliser un outil comme ChatGPT ou Bard ou autre, le fait de reformuler le texte, ça sort quelque chose de propre derrière.
Ouais. Ouais. Une fonctionnalité que tout le monde devrait connaître, tous ceux que je vois dans les trains qui laissent leurs ordinateurs avec leurs sessions ouvertes sur leur truc pro, avec mail confidentiel, documents confidentiels, ne pas. Et là, cette fonctionnalité, enfin, ce raccourci clavier, tout le monde devrait le connaître. Je ne sais pas s'il existe sur Windows, mais il y a forcément un équivalent. C'est la possibilité de verrouiller ta session en un clic. Mmh. Enfin, tu tapes sur la touche tout, merci, tout, je vous ai tous entendu en cœur, et la touche L, et tu verrouilles automatiquement ta session, tu passes sur la session verrouillée, il faut retaper le code, tu quittes ta place dans le train, au restaurant, dans un bar ou n'importe quoi, tu laisses traîner ton ordinateur, ne surtout pas laisser son ordinateur ouvert, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres hein, quand on fait ça, hein. Donc touche tout et L, automatiquement tu verrouilles ta session et c'est secure. Là, avant de pouvoir taper quelque chose à ta place sur ton ordinateur ou prendre en photo ton écran, je pense qu'il faut se lever de bonne heure. Je ne sais pas si tu le maîtrises, cette touche-là, si tu le...
Et pour info, pour ceux qui ont, comme moi, malheureusement, un ordinateur Windows pour le boulot, c'est exactement le même raccourci. C'est la touche Windows plus L.
Eh ben, tu vois. Comme quoi, s'inspirer, ça a du bon parfois. un autre, encore un raccourci, toujours des raccourcis, hein, j'adore, hein, vous le savez, je suis très très fan, j'en ai même créé un guide complet avec tous les raccourcis à l'époque. J'aime mettre en sourdine mon haut-parleur de temps en temps, et plutôt que de passer par le haut-parleur et le micro, hein, je peux tout mettre en sourdine, on peut le faire, hein, clic droit, souris, paramètres, désactiver, activer, ben, on peut mute l'ensemble de son clavier, l'ensemble de son ordinateur en simplement en touchant la touche tout et la touche M comme mute qui permet de muter le son de son Chromebook. Moi, je trouve ça super intéressant. Quand j'écoute de la musique, quand j'ai le micro déactivé, ben, avec ça, je le fais très très rapidement. C'est une fonctionnalité que tout le monde ne va pas utiliser, mais qui peut être utile au bureau, dans le train ou quand il y a quelqu'un qui vient nous parler. Je ne sais pas si tu la connaissais, mais pareil, le raccourci clavier avec la M de mute semble assez facile à retenir. Donc, ouais. Je la mets dedans. Je te vois essayer. Est-ce que ça fonctionne?
Ouais. Bah, je n'ai pas essayé parce que je ne voulais pas te couper la chic. mais non, je ne connaissais pas du tout. Et il suffit de retaper tout et M pour
réactiver. Ouais, c'est pareil, ouais, tout à fait. Ouais.
Bon.
Ouais, alors tu vas voir en bas à droite, si ça coupe pas la conversation, normalement ça devrait bien passer. Je sais pas si ça a marché pour toi, tu nous le diras. Tu m'as entendu, non? Peut-être pas. Hein.
Ouais, non, je n'ai pas essayé. Parfait. Je ferai ça à tête reposée.
Top. Un autre raccourci clavier que... Tu t'as raison. Un autre raccourci clavier très attendu et qui me semble hyper intéressant. Encore une fois, c'est pour éviter les souris, hein, les différents clics, parce que j'utilise énormément depuis que le calendrier est arrivé sur Chrome OS. J'utilise beaucoup le calendrier, mais également ma liste des tâches avec Google Tasks, qui est d'ailleurs sur la même fenêtrage. Hein, quand tu cliques sur la date présente en bas à droite, ça ouvre une petite fenêtre avec ton calendrier. J'en avais marre de cliquer dessus. Je trouvais ça très, très 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 long et du coup ben j'ai cherché un raccourci et figure-toi qu'il l'avait déjà créé. Encore une fois, touche tout plus la touche C. Avec ça, bah, comme C comme calendrier, hein, ils ne sont pas allés chercher bien loin, ça t'ouvre automatiquement le calendrier et du coup, tes tâches au su. Moi, je trouve ça génial. Hein. Enfin, je l'utilise, mais tout le temps. Ça me permet, parce que du coup, quand tu es sur ton calendrier, si sur cette journée-là, tu as des rendez-vous, ça t'affiche tes rendez-vous également. Moi, j'adore. Je ne sais pas si tu le connaissais également, si tu l'utilisais ou si tu utilises le calendrier tout court d'ailleurs. Hein.
Bah, je ne connaissais pas. Je l'utilise, mais je cliquais sur la date, tout simplement. Je savais pas qu'il y avait un raccourci pour ça.
Et voilà. C'est magnifique. Hein. Les raccourcis, t'en as. Et là, je ne parle que de ceux que j'utilise tous les jours. Il y en a d'autres que j'utilise beaucoup moins, mais qui sont toujours très utiles. Un autre, c'est toi qui nous l'as mis. Tiens, Olivier, je te laisse en parler parce que moi, je l'utilise pas. Et pourquoi, je sais pas d'ailleurs.
Bah ouais, parce que moi c'est celui que j'utilise le plus finalement. J'ai forcément sur mon étagère en bas les applications que j'utilise le plus. Si je regarde, bah il y a Chrome, il y a Mail, l'application Fichier, Google Docs, Sheet, etc., etc., YouTube et compagnie. Et bah j'utilise la touche Alt et le numéro qui se trouve en haut du clavier, hein, le chiffre 1, 2, 3 en fonction de la position qu'ils ont sur l'étagère. Donc Google Chrome qui est en premier, bah Alt 1 et ça me lance Chrome automatiquement. C'est ce que je t'expliquais. J'ouvre le bon Chromebook, Alt 1 pour lancer le navigateur et puis c'est parti quoi. J'ai pas besoin d'aller de me saisir de la souris ou quoi que ce soit. C'est vraiment un réflexe chez moi. Si j'ouvre l'ordi pour aller ouvrir un Google Docs, bah c'est hop Alt 4 et c'est parti quoi. Oui, donc ça c'est vraiment super super pratique.
Et cette fonctionnalité, donc tu peux aller jusqu'à donc Alt 9, je crois, pour ouvrir les 9 premières icônes qui sont le qui sont de plus à gauche, en fait, du plus à gauche au plus à droite. Et si tu en as plus, le 0, je crois que tout, celui qui est tout à droite complètement. Donc, si tu en as 11 d'épinglés, tu peux ouvrir les 9 premiers et le tout dernier.
Ah bah, je sais pas, moi je suis adepte du minimalisme, donc j'en ai que 7 ou 8. 7 ou 8.
Bon, bah, c'est
donc
top.
Donc je ne suis pas arrivé juste là.
Et ben voilà, tu le sauras. Si jamais tu en rajoutes d'autres, il y a une petite limitation. Tu peux mettre que bah, 9
après,
ou 10.
Après, j'utilise la touche tout et puis je tape le nom de l'appli parce que c'est des applis forcément que j'utilise moins souvent. Donc voilà, le raccourci, il est vite fait. Hein, c'est taper les premières lettres du nom de l'appli. Donc parfois, tout et puis deux lettres, c'est parfois plus rapide que de s'embêter à aller chercher quoi, autre chose, quoi.
Tiens, un raccourci clavier que nous donne Dominique dans le chat, CTRL-P. Mais oui, CTRL-P, c'est, je l'utilise tous les jours, évidemment. CTRL-P, ça permet d'imprimer le contenu de ce qui est affiché à l'écran. Donc, ça peut être une image, ça peut être du texte, ça peut être tout et n'importe quoi. CTRL-P, c'est normal parce que cliquer en haut à gauche, impression, choisir l'imprimante, c'est trop compliqué. CTRL-P, c'est génial.
Il y a plein de raccourcis comme ça qui sont transverses à toutes les... À tous les OS. CTRL-P, on le trouve sous Windows ou sous Mac, j'imagine. Le CTRL-F pour faire une recherche dans un texte ou dans une feuille de calcul, c'est pareil. Ces raccourcis clavier, c'est un gain de temps énorme dans la journée. Hein.
Ouais. Oui, mais tout à fait, mais c'est impressionnant. Faudrait pouvoir calculer le temps gagné grâce à ça. Un dernier que je voulais utiliser, un avant-dernier que j'utilise régulièrement, tu sais, on reçoit des notifications et de plus en plus, puisque maintenant il est lié à ton smartphone également. Et j'aime bien voir mes notifications, mais le problème, c'est que des fois, elles passent un peu trop vite et j'ai pas eu le temps de le voir. Alors, je pourrais prendre ma souris, évidemment, cliquer sur paramètres, voir mes notifications. Moi, ça me saoule un petit peu, donc je suis allé chercher s'il n'existait pas un raccourci clavier. Et le raccourci clavier, bah, il est pas très compliqué. On ajoute à la touche Alt plus majuscule plus N comme notification. Donc Alt majuscule plus N et ça t'ouvre ton panneau des notifications de Chrome OS. Ça permet vraiment de visualiser tout d'un coup tes notifications. Je vais peut-être dire une bêtise, mais en refaisant le même raccourci clavier, tu refermes ton panneau de notifications. Mais franchement, c'est vraiment très, très intéressant. Je ne sais pas si tu es adepte des notifications d'ailleurs et si tu en as beaucoup trop ou tu as mis carrément mettre en sourdine notification.
C'est assez compliqué parce que j'aime bien les notifications et en même temps ça m'agace. Ça m'agace quand il y en a trop et en même temps j'aime bien des fois regarder ce qui vient d'arriver sur tel réseau social ou la dernière vidéo d'un compte pour lequel je suis abonné sur YouTube ou des choses comme ça. Si, j'aime bien les notifications, mais parfois quand on en a 15 ou 20, ça devient un peu relou. Donc, c'est vrai que je les traite généralement au fur et à mesure avec la touche, avec ce raccourci-là que j'utilise aussi fréquemment.
Ouais, à essayer, allez-y, testez, vous verrez, c'est sympa.
Par contre, ce que j'aimerais bien,
c'est
qu'ils fassent un raccourci clavier dans les notifications pour effacer l'intégralité des notifications.
Ah ouais, plutôt que de scroller droite-gauche, ouais.
Ouais, ou plutôt que de cliquer sur tout effacer, avoir pareil, tu ouvres le panneau des notifications et puis d'avoir un autre raccourci clavier pour vider le panneau de notification pour plus tard, quoi. Ça serait bien.
Ouais, c'est une bonne idée. Eh ben, il existe peut-être, hein. D'ailleurs, je vais t'expliquer comment peut-être aller le retrouver s'il existe. Mais juste après, moi, il y en a un que j'utilise beaucoup. J'utilise énormément l'application fichier de mon Chromebook. Hein. Forcément, j'ai tous mes fichiers dedans, alors qu'ils sont stockés sur Google Drive, certes, mais j'utilise beaucoup mon application fichier. Pareil, j'ai pas épinglé l'application fichier sur l'étagère parce que je trouve ça dommage d'avoir une icône alors que je peux faire autrement. Évidemment, je vais pas ouvrir avec la touche tout puis taper fichier parce que bon, moi, ça me fait perdre du temps parce que j'ai tapé fichier quand même puis j'ai ouvert la touche tout, il a fallu que je me déplace. Donc j'utilise un raccourci clavier qui est majuscule Alt plus M comme M. Je sais pas ce raccourci pourquoi. Majuscule plus Alt plus M. Ça t'ouvre automatiquement la fenêtre d'application fichier de Chrome OS. Et après, tu navigues avec les flèches si tu veux, la souris, enfin peu importe ce que tu as. Ça permet, moi, d'arriver très très rapidement. Ce qui fait que, par exemple, je suis en plein écran avec un document et d'un seul coup, j'ai une image que je veux coller à l'intérieur de mon document que j'ai pas épinglé dans Tot. Mais je sais où elle est dans mon application fichier. Donc, plutôt que d'aller chercher, en fait, je fais mon raccourci clavier, ce qui m'ouvre une pop-up avec, enfin, une fenêtre à plein écran de l'application fichier. Puis après, avec ma souris, je fais juste un glisser-déposer à l'endroit où je veux. Et je trouve ça génial. Donc, ça marche vraiment très, très bien. Je vais accompagner ça de deux autres raccourcis clavier que j'apprécie particulièrement. Je télécharge pas mal de fichiers sur mon Chromebook. Si ce n'est pas des fichiers qui sont très importants ou qui sont très lourds, peu importe. Des fois, je les laisse sur mon stockage local. Mais la plupart du temps, je les mets sur le Drive. Mais j'aime bien les renommer. Et pour les renommer, tu as une solution, un clic droit sur l'icône, menu déroulant, renommé, bon bref, 300 ans pour faire un truc comme ça. Avec le raccourci que je vais vous donner, tu sélectionnes simplement ton fichier, donc tu te déplaces avec les touches haut, bas, droite, gauche de ton clavier, hein, et puis tu te mets dessus, et puis contrôle entrée, et là tu as plus qu'à taper ton texte renommé très facilement ceci. Une dernière solution, puis tu me diras ce que tu penses de ces trois-là. J'aime bien aussi savoir le poids d'un fichier, savoir qui l'a créé ou des choses comme ça, toutes les informations liées au fichier que tu as téléchargé ou récupéré ou même toi-même créé. Tu te mets dessus dans l'application fichier et tu as juste à appuyer sur la touche espace de ton clavier et automatiquement, tu sais tout. En fait, tu as le clic droit, information sur le fichier et qui marche très, très bien. J'adore ça. Allez, j'en rajoute un, mais c'est pas vraiment un raccourci, mais c'est pour faire un coucou à nos compères. Il est possible aujourd'hui, je ne savais pas, dans l'application fichier, tu peux la zoomer. Tu peux zoomer à l'intérieur de l'application fichier. C'est Thierry qui m'a annoncé ça. J'avais jamais fait attention. Tu peux avec deux doigts zoomer à l'intérieur de l'application fichier comme si tu étais sur Chrome, tu sais, pour avoir plus gros, plus petit. Je savais pas que c'était possible. Je trouve ça intéressant. Olivier, l'application fichier, est-ce que tu l'utilisais avec ces raccourcis clavier là ou est-ce que tu avais d'autres solutions que tu apprécies et puis que tu voulais nous partager?
Non, bah moi, l'application fichier, elle est sur mon étagère et donc je fais Alt 3 à chaque fois pour l'ouvrir, tout simplement. oui, contrôle entrée, je l'utilise forcément. Moi, il y a un petit raccourci clavier et là, en t'écoutant, je faisais des petits tests et que j'ai pas noté tellement il est intuitif, c'est le contrôle W pour fermer une fenêtre ou pour fermer un onglet. Je l'utilise, je crois que c'est celui que j'utilise le plus même, finalement. Et oui, la touche espace, non seulement ça te donne un aperçu du document, mais en plus, ça te donne des infos dessus, forcément, oui. C'est pareil, c'est des choses, on n'y pense même pas tellement, on l'utilise souvent, quoi.
Effectivement, mais le contrôle W, ouais, je l'utilise beaucoup, j'ouvre beaucoup d'onglets sous Chrome et contrôle W, ça fait partie de mes favoris et du coup son compère contrôle majuscule T parce que je ferme trop souvent les onglets, des fois je me trompe donc je rouvre le dernier onglet fermé et voilà, donc ils vont de pair pour moi. Et puis je vous en donne un dernier, le raccourci des raccourcis, celui qu'on doit tous connaître, celui qui maîtrise les raccourcis. En fait simplement c'est le raccourci qui te permet d'accéder à la boîte d'outils raccourcis de Chrome OS. Donc contrôle tout plus S et là tu as tous les raccourcis qui existent, alors t'en as des dizaines ouais. Et sont rassemblés par thématique, hein, si c'est système d'exploitation, si c'est page web, si c'est navigateur, si c'est accessibilité, bref elles sont toutes rassemblées les unes derrière les autres et bah voilà, si t'as un doute sur un raccourci, si tu veux en trouver d'autres, vas-y, va sur contrôle tout S et et vas-y de temps en temps parce qu'ils en changent, hein. Ils en rajoutent.
Ça évolue souvent. Moi, j'appelle ça l'inception du raccourci. Tu vois, c'est les raccourcis dans le raccourci du raccourci.
Le raccourci du raccourci, c'est ça. Bon, après, évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, hein, de raccourcis clavier. Vous nous direz dans les commentaires de la vidéo ou dans les notes de l'émission, n'hésitez pas à nous dire ceux que vous utilisez le plus souvent. Alors, évidemment, le contrôle A, contrôle C, moi, c'est mes favoris. Mais il y en a plein, plein, plein d'autres. Je ne vais pas tous vous les dire aujourd'hui. J'adore celui de la capture d'écran, par exemple. Alors, moi, capture d'écran pour le site, forcément, j'en fais des dizaines et des dizaines. Tu en avais un que tu voulais nous mettre en plus? Bon, le contrôle W, c'est déjà pas mal, ceci dit, hein.
Non, là, je crois qu'on a fait pas mal le tour, hein. Après, c'est ce que je te disais, des fois on les utilise sans faire gaffe. Ouais. Mais en tout cas, s'il y a une chose que je puisse te dire, c'est que il faut en user et en abuser des raccourcis clavier parce que c'est un gain de temps incroyable par rapport à ceux qui utilisent uniquement la souris ou l'écran tactile. On est capable de gagner un temps fou rien qu'à utiliser ces astuces là, quoi. Ouais. Ça demande juste un petit effort, c'est de s'y habituer, de les utiliser, j'allais dire une dizaine ou une vingtaine de fois en se forçant au départ, et puis après on les intègre complètement, quoi.
Tout à fait. Ouais, et un truc vraiment très simple, allez-y, essayez. Puis si vous voulez un petit guide sur les raccourcis clavier, n'hésitez pas, dans la boutique mychromebook.fr, je vous ai glissé un petit guide. Si vous le voulez, si vous les écoutez, si vous me le demandez gentiment, je vous l'envoie gratos, hein, il n'y a pas de problème. Mais il faut nous le demander. On va continuer, la dernière partie, je sais que vous attendez tous cette partie-là et on va aller assez vite parce qu'on vous a déjà tenu un petit peu de temps et on est tous fatigués ce soir suite à de grosses fêtes faites dernièrement. Nos coups de cœur. Mais moi j'ai une excuse, c'était mon anniversaire deux fois, puisque on le fait avant et après moi, donc voilà. Donc du coup c'est normal, je suis fatigué. Nos coups de cœur, bah tiens, je vais te laisser parler du tien, Olivier, parce que bah, j'adore. D'ailleurs, là, si vous avez eu la newsletter de ce matin, pour ceux qui l'ont vu, il y a quelques images qui ont été créées avec ça.
Ouais, bah c'est DALL-E 3 qui a été intégré à ChatGPT. Alors déjà DALL-E 3, déjà c'est un coup de cœur parce que les résultats, les images qui sont générées par DALL-E 3 sont vraiment bluffantes, comme dirait Nico, sont vraiment intéressantes. Ça rivalise largement avec Midjourney. Pour moi, c'est même un cran au-dessus maintenant. Et surtout, ce qu'ils ont fait de super, c'est qu'ils ont intégré DALL-E 3 dans ChatGPT, c'est-à-dire qu'il suffit de déclencher l'option dans ChatGPT, on tape le prompt sans quitter ChatGPT, on obtient les résultats de DALL-E 3 directement sous ChatGPT, et ça, rien que pour ça, c'est super intéressant. Vraiment, ce que je trouve d'intéressant avec DALL-E 3, c'est la qualité qui est vraiment exceptionnelle. Les prompts qui sont beaucoup plus souples que ce qu'on pouvait avoir avec Midjourney, par exemple, parce que j'utilisais Midjourney auparavant, parce que bah c'est comme ChatGPT, hein, on lui parle en langage naturel, donc il y a pas tous ces codes, ces paramètres à connaître qu'il fallait connaître dans Midjourney. Et puis bah ça coûte beaucoup moins cher que Midjourney, parce que Midjourney, si vous vouliez faire suffisamment de générations d'images, bah, ça avait un coût qui était quand même super important. Donc pour le coup, DALL-E 3 bah il est intégré à ChatGPT, donc ça fait moi j'ai le compte plus pour ChatGPT, mais j'ai tout ça pour le même compte, donc je fais une sacrée économie. Voilà.
C'est pour ça que, moi je l'utilise, hein, je trouve ça vraiment bluffant, ça marche super bien depuis qu'ils l'ont intégré. Tu peux même, t'as vu, tu peux balancer une image et tu peux lui demander de te la décrire pour créer un bon prompt pour DALL-E. Et je trouve ça génial. Enfin, j'ai essayé de me mettre dedans au début, il voulait pas, il dit non, je ne traite pas les images de personnes réelles. Bon, oui. C'est comme tout, hein, ChatGPT, il y a toujours un moyen de le contourner, mais ça marche super bien, c'est étonnant. Très étonnant. Je vous parle de mon coup de cœur à moi. Alors, c'est un coup de cœur que j'ai eu cet après-midi, d'ailleurs. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais pas vu. C'est un documentaire qui s'appelle un documentaire sur Général Magique. Je ne sais pas si tu connais Général Magique, Olivier. Et pourtant, tu devrais le connaître parce que, comme moi, tu utilises forcément un smartphone. Et c'est l'entreprise qui elle a été créée en 1989, hein, pour info. Entre-temps, elle a fait faillite, hein, évidemment. Et il y a eu des entreprises qui ont été plus puissantes qu'elle et plus pile-poil au bon moment, alors qu'eux, ils sont arrivés 20 ans trop tôt. Donc, en 89, ils ont créé simplement le premier smartphone, hein, tout simplement. Avant même qu'Apple crée le Newton, tu en as peut-être entendu parler, la première itération de ce qu'allait devenir plus tard un iPhone, peut-être. Mais ce qui est génial, c'est qu'il raconte l'histoire, comment ça s'est créé, qui sont les acteurs de cette société, General Magic, et ce qui est vraiment bluffant, je l'ai dit, c'est que derrière, en fait, tous ceux qui ont été chez General Magic, on les retrouve dans toutes les grandes entreprises de ce monde. Donc, il y en a qui ont travaillé sur l'iPhone, il y en a qui ont travaillé sur Nest Labs, il y en a qui ont travaillé sur Google+, il y en a qui ont travaillé sur Android, il y en a même un qui a créé Android dedans. Bref, toutes ces personnalités qui sont réunies à un moment dans une entreprise qui s'appelle General Magic sont devenues des géants qui font qu'aujourd'hui, on utilise leur technologie à travers tous nos appareils, que ça soit du tactile, que ça soit de... Ils ont inventé le protocole, enfin, ils ont été l'inventeur du protocole USB, par exemple. C'est une société, je ne la connaissais pas. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais pourquoi je ne savais pas qu'elle existait? Pourquoi on ne l'a pas étudiée? On parle d'Apple, on parle de tout le monde. Donc, ce documentaire, il est payant, il est sur Canal+, c'est pour ça que je l'ai vu aujourd'hui. Mais vous pouvez le louer un petit peu partout, à droite, à gauche, sur toutes vos plateformes préférées de vidéos. Et il y en a qui ont travaillé chez Dreamware, il y en a trop. Enfin, bref, vous verrez, allez regarder, il dure un peu moins d'une heure, je crois. C'est vraiment très, très intéressant à regarder, très instructif. Et ça relativise, on voit Apple différemment d'un coup, en se disant ils avaient tout inventé, mais finalement pas tant que ça.
Non, c'est intéressant, ouais. Il faudrait que j'aille jeter un œil, je ne connaissais pas du tout General Magic, non.
Eh ben moi non plus. Eh ben écoute, sur ces bonnes paroles, Olivier, merci d'ailleurs d'avoir préparé ce conducteur d'une main de maître comme d'habitude. Je te souhaite une bonne soirée. Je vais dire au revoir à tout le monde. Si tu restes, tu restes. Hein, t'es chez toi ici, Olivier. T'oublie pas d'éteindre la lumière et de fermer la porte en partant. Mais moi, je vais aller me reposer pour une dure semaine de travail qui s'annonce. Merci à toi, Olivier.
On a un jour férié cette semaine.
Une agréable soirée, une bonne nuit.